Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et chers amis, je suis heureux maintenant d'aborder avec vous le colosse au pied d'argile, la vision elle-même. Et Daniel commence ses explications à Nebuchadnezzar de la manière suivante. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi. Et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Une première chose est à remarquer. Nous voyons cela comme un panorama de l'histoire, puisque Daniel va dire que quatre royaumes vont se succéder jusqu'à la fin, jusqu'à ce cinquième royaume qui est le royaume éternel de Dieu. Mais les quatre parties n'ont pas la même consistance et la même importance. Et dans le tableau que je vous présente maintenant, j'ai mis en blanc ce qui a trait aux trois premiers empires, en orange ce qui a trait au quatrième, et en rouge ce qui a trait au royaume éternel. Et vous vous rendez compte que ce qui a trait au quatrième, et au royaume éternel est plus important que ce qui concerne les trois premiers. Dans les explications, en fin de chapitre 2, c'est encore plus flagrant. Si nous allons maintenant au chapitre 7, nous retrouvons la même chose. Ce sont quatre royaumes qui vont se succéder, mais qui sont représentés par des animaux sauvages. Eh bien, vous avez en blanc ce qui concerne les trois premiers, et en orange ce qui concerne le quatrième, et en rouge le royaume éternel. Même chose dans les explications. J'aimerais vous dire par là que le livre de Daniel est un livre de la fin. Ce n'est pas simplement un livre qui nous donne un panorama de toute l'histoire. Mais c'est un livre qui insiste sur la fin, un peu comme si les royaumes précédents, les premiers royaumes, les premières dynasties, n'étaient que des jalons dans l'histoire. Et si la partie intéressante résidait dans le quatrième. Et le quatrième a toujours une histoire plus complexe. C'est ce que nous allons voir. Voici l'explication donnée par Daniel. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu t'a donné, le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. On pourrait dire c'est une introduction élogieuse, mais elle correspond à la réalité. Et déjà à ce moment-là, l'empire de Nebuchadnezzar était considérable et il était au-dessus de tous les autres. Alors notons qu'au verset 37, ici, on a le sentiment que c'est un roi. Et il va être suivi par d'autres rois. Mais au verset 39, il va parler de royaume, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une dynastie. Et que Nebuchadnezzar, à lui tout seul, va représenter l'ensemble de la dynastie chaldéenne. De la même manière, l'empire suivant est représenté par ce que nous verrons, c'est-à-dire la poitrine d'argent, mais il ne représente pas que le premier roi, il représente l'ensemble de cette dynastie. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, des bêtes, des champs et des oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. N'oublions pas que quelques années avant, alors que nous sommes en 603, 602, quelques années avant, c'est-à-dire en 612, c'est Ninive qui tombait, et l'empire assyrien avait été très puissant. Et puis, en quelques années, après Assurbanipal, il avait périclité, il avait été écrasé par cette association des Mèdes d'un côté et des Babyloniens de l'autre, c'est-à-dire de Siaxar et de Nabopolassar, et Ninive avait été prise en 612 avant Jésus-Christ. 10 ans plus tard, les Mèdes ne font plus le poids face à Nebuchadnezzar, et c'est vraiment lui qui domine tout l'Orient. Mais Daniel en parle comme s'il dominait tout le monde. Et en réalité, il est très probable que Nebuchadnezzar, par sa sagesse, par ses intrigues, par ce qu'il a fait, a forcé l'admiration de tous les royaumes et a pu inviter l'élite de chacun de ces royaumes à venir à Babylone pour étudier, pour se former et finalement pour dépendre de cette université babylonienne qui avait un rayonnement mondial. C'est toi qui es la tête d'or. La domination universelle, la domination de Nebuchadnezzar est-elle aussi universelle que le dit Daniel? Il ne faut pas comprendre cette domination comme écrasante. En réalité, ce sont des peuples où Nebuchadnezzar maintenait les autorités en place, et on le voit bien à travers ce qu'il a fait pour le pays de Juda. Il a maintenu Jojaquin en place, et le roi a continué à régner avec simplement l'obligation de payer un tribut à Nebuchadnezzar. Et il en était ainsi de nombreux rois. Et quand Evil-Merodach, le fils de Nebuchadnezzar, va vouloir élever et honorer Jojaquin, en réalité, le texte nous dit qu'il y avait de nombreux rois qui étaient là. Donc c'était des rois ou des personnes de famille royale qui étaient prises d'une certaine manière en otage à Babylone, mais ces familles royales continuaient à régner dans leurs différents pays. Est-ce qu'il nous faut comprendre, ou comment nous faut-il comprendre, la domination sur les bêtes des champs et sur les oiseaux des cieux? Eh bien, on sait par exemple que c'est une manière de parler, on le voit dans Ézéchiel, qui compare la Syrie à un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, dit-il, son feuillage était touffu, sa tige élevée, et sa cime s'élevait au milieu d'épais rameaux. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches, toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Donc nous voyons que l'image est celle de nations qui sont dépendantes de Babylone, sans pour autant être écrasées, mais elles étaient dépendantes. Dans la vision de l'arbre que nous verrons au chapitre 4, de la même manière, les animaux trouvent abri sous cet arbre. Et les animaux sauvages et les oiseaux du ciel également. Par conséquent, l'image peut se comprendre de cette manière, mais peut-être faut-il y voir aussi des techniques de domptage, des techniques de capture des animaux, et Il y a là probablement une allusion à la création et au fait que Dieu avait donné à Adam la domination sur tous les animaux. Alors, il devient de cette manière, de nouveau, à l'image d'Adam, le maître du monde. Il est et il représente l'empire babylonien, la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Le point important qui vient d'être dit ici, c'est que contrairement à ce qu'espère Nebuchadnezzar, son royaume un jour s'éteindra et aura un successeur et aura un deuxième royaume. Et il y aura même un troisième et puis un quatrième royaume. Alors, il donne peu d'indications sur ces royaumes qui se succèdent. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. C'est juste l'indication. La tête était d'or, la poitrine est d'argent. Eh bien, ceux qui vont prendre la suite de Nebuchadnezzar, qui vont prendre la suite de cette dynastie chaldéenne, ce sont les Mèdes et les Perses. Civilisation brillante aussi, et qui a laissé de très grands monuments. Mais, il faut bien le reconnaître, beaucoup moins brillante que celle de Nebuchadnezzar. Le passage de relais va se faire avec Cyrus le Grand, quand Cyrus va prendre Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Cette prise se fait alors que le royaume babylonien s'est affaibli. Après Nebuchadnezzar, son fils, Evil-Merodach, a régné pendant 2 ans et puis a été assassiné par une conjuration dont faisait partie Nériglissar, le gendre de Nebuchadnezzar, qui va d'ailleurs prendre le pouvoir à ce moment-là. Mais il ne va pas régner longtemps. 4 ans, 6 ans, un temps relativement court. Son fils, Labashi-Marduk, va régner après lui, mais quelques mois, simplement. Et après lui, c'est encore un autre gendre de Nebuchadnezzar qui va prendre le pouvoir, c'est Nabonide. Mais Nabonide est intéressé par d'autres choses que le pouvoir et l'exercice du pouvoir. Et il va avec son fils Belshazzar conquérir l'oasis de Théma et il va s'y installer. Et même si officiellement il va régner 17 ans à Babylone, la 17e année étant largement amputée, s'il va régner 17 ans à Babylone, en réalité, il va passer le plus clair de son temps à l'oasis de Théma, certainement entretenant une conjuration contre lui, parce que les prêtres ne pouvaient célébrer la fête de Nouvel An que si le roi était là. Et le roi volontairement, qui n'était pas un adorateur inconditionnel du dieu Marduk, mais plutôt du dieu Sin, du dieu Lune, refusait de venir à Babylone pour éviter que les prêtres puissent célébrer le nouvel an en l'honneur du dieu Marduk. Et il y a donc eu une conjuration des prêtres qui a fait que quand Cyrus a pris le pouvoir à Babylone, les prêtres l'ont accueilli avec joie et Cyrus a rétabli le culte de Marduk. Donc, premier passage de témoin, avec Cyrus, en 539 avant Jésus-Christ. Royaume apparemment plus étendu que celui de Nebuchadnezzar, et pourtant Nebuchadnezzar régnait sur toute la terre, mais peut-être la domination était-elle plus directe, plus pressante, alors que Nebuchadnezzar avait une influence sur des royaumes vassaux. Deuxième étage, la poitrine d'argent, l'Empire Médo-Perse. Pourquoi associer les Mèdes et les Perses? Pourquoi ne voit-on pas d'abord les Mèdes, puis les Perses? Eh bien, c'est que 10 ans avant, c'est-à-dire autour des années 550 avant Jésus-Christ, Cyrus, d'origine perse, mais d'origine mède par sa mère, avait lutté contre le père de sa mère, c'est-à-dire son propre grand-père, et l'avait vaincu. Ce grand-père s'appelait Astyage, et semble-t-il avait voulu éliminer ce Cyrus dès sa naissance, car il sentait le danger, mais Cyrus, en le vainquant, lui a quand même épargné la vie et lui a permis de continuer à régner de manière plus réduite d'ailleurs pendant un certain temps. D'ailleurs, tout en prenant Babylone en 539, ce n'est pas lui qui va prendre le royaume de Babylone, c'est Darius le Mède, qui est probablement son oncle et qui va donc régner. Et il est probable qu'il s'agit là d'un roi qui est méconnu des historiens grecs et qui s'appelle Cyaxare II. Donc les Mèdes et les Perses étaient déjà associés quand Babylone est tombée, et ils étaient déjà associés sous l'autorité de Cyrus depuis une dizaine d'années. Si je veux continuer dans cette voie-là, on va voir que dans le livre de Daniel, tout au long du livre de Daniel, jamais on ne voit les Perses séparés des Mèdes. On les voit toujours associés, et ce sont toujours les Mèdes et les Perses. Avançons encore, et même s'il est dit dans Daniel à Belshazzar, Daniel 5, 28, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses, en réalité, le royaume va passer entièrement aux mains de Darius le Mède et aux mains de Cyrus le Perse. Mais ils sont de connivence, ils sont ensemble. Alors, avançons maintenant dans le texte, et il nous dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, nous l'avons vu, ce sont les Mèdes et les Perses, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Ce troisième royaume qui fait suite aux Mèdes et aux Perses, c'est le royaume d'Alexandre le Grand. C'est le royaume grec, les royaumes grecs. Nous aurons l'occasion de le voir avec plus de détails. Donc ce deuxième passage de témoin se fait avec la victoire d'Alexandre le Grand sur Darius III, Darius Codoman, d'abord en 333 avant Jésus-Christ à la bataille d'Issos, puis en 331 à la bataille de Gaugamélès, ou Arbel, et Darius III va réussir à fuir tout en abandonnant sa famille, et d'ailleurs Alexandre le Grand va se marier avec la fille de Darius III, mais c'est finalement un satrape de Bactriane qui va assassiner Darius III un an après, en 330. Le passage de témoin se fait effectivement en 331, et à ce moment-là, ce sont les Grecs qui vont régner. Je vous donne quelques chiffres sur la bataille d'Issos, mais il y avait 1 million d'hommes du côté des Mèdes et des Perses, contre 40 000 fantassins et 7 000 cavaliers du côté grec. Donc une écrasante différence numérique, mais une stratégie tout à fait extraordinaire de la part d'Alexandre le Grand, qui justement profitait de cette armée plus légère et beaucoup plus mobile pour contourner et pour vaincre cette armée trop nombreuse, trop lourde et qui nécessitait évidemment une logistique beaucoup plus importante. Troisième étape, donc, les empires grecs. C'est le bassin d'Airain et les cuisses d'Airain. Maintenant, le texte continue. Mais ça, si vous le voulez bien, nous le verrons la prochaine fois. En réalité, ce qu'il faut réaliser là, c'est que le projet de Nebuchadnezzar, qui était de créer un empire universel, avec un savoir universel, ressemble fort au projet actuel de l'humanité. Actuellement, on parle de plus en plus de gouvernance mondiale. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est souhaitable? Une première chose s'était passée, une première histoire avait eu lieu avec Babel, la tour de Babel. On considère que c'est une légende, mais en réalité, c'était une histoire. Et c'était la première tentative de mondialisation. Eh bien, cette tentative-là a échoué et Dieu n'a pas permis qu'elle réussisse. Parce qu'en réalité, si on maintient l'ensemble de la population sous une autorité trop forte, les hommes sont malheureux. Et Dieu a permis que face à ces potentats de l'Antiquité ou d'une ère plus moderne, l'homme ait toujours la possibilité de fuir dans un autre pays. Première tentative, je vous le disais, de cette gouvernance mondiale, la tour de Babel avec Nimrod. Mais on pourrait parler d'une deuxième tentative, davantage basée sur l'intelligence et sur le savoir, avec Nebuchadnezzar. Et Dieu n'a pas permis que ça se réalise. Et là, maintenant, aujourd'hui, nous sommes avec une troisième tentative. Oh, d'autres tentatives, il y en a eu, je les passe sous silence. Mais ne pensez-vous pas que Charlemagne, Charles Quint, Napoléon, Guillaume II, Hitler ont eu le même projet, un projet d'autorité mondiale. Il me semble même que la population de base appelle à ces projets, parce qu'elle a l'impression que c'est ainsi qu'on va éviter les guerres, et aujourd'hui que l'on va éviter les problèmes économiques. Mais va-t-on les éviter? En réalité, l'histoire montre que quand on donne trop de pouvoir à une personne, elle le détourne à son profit. Et que finalement, les populations qui en dépendent sont plus malheureuses que d'avoir peut-être un pouvoir ou une tête moins forte, mais qui leur laisse davantage de liberté. Et l'avertissement de Samuel mériterait d'être pris en compte. Quand le peuple d'Israël demandait un roi, Samuel leur disait « Attention, le roi que vous demandez, il va avoir des soldats et qu'il faudra entretenir. Il va prendre les plus jolies filles du pays pour en faire des danseuses. Il va prendre les plus habiles pour en faire des cuisinières. C'est-à-dire qu'il va détourner les principales forces de la nation à son profit. Ah, oh, la nation sera glorieuse, mais sera-t-elle plus heureuse pour autant ? Eh bien, il me semble que ce qui s'est passé là, ce que nous donne cette histoire, cette vue sur le long terme de cette histoire, nous permet de comprendre que ce que Dieu souhaite pour le bonheur de l'humanité, c'est que justement cette humanité ne soit pas sous un chapeau général et que ceux qui dirigent veulent donner l'illusion qu'on serait plus heureux s'il y avait un gouvernement mondial. Mais ça n'est pas le cas. Et la parole de Dieu nous met en garde. Et elle nous dit clairement que ce qui est le mieux, c'est que Dieu lui-même gouverne et suscite des hommes capables et généreux, plutôt que de laisser à un seul, qui va forcément favoriser sa famille, qui va forcément favoriser ses proches et qui va leur donner les places de choix, les places de gouvernement que probablement ils ne méritent pas ou dont ils ne sont pas dignes. Que Dieu nous donne cette sagesse de comprendre qu'il ne faut pas espérer dans des hommes providentiels pour nous sortir de difficultés, mais qu'il nous faut compter sur lui, ou alors sur des hommes qui comptent sur lui. Et s'il y a des hommes providentiels, comme Joseph en Égypte, ou comme Daniel à Babylone, en réalité, c'est Dieu qui les fait avancer et c'est Dieu qui les met en place. Je vous remercie de votre attention.